Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Du grain à moudre d'été, ce soir, le dessin de presse peut-il encore être satirique ? Ça y est, ils ont disparu. Impossible désormais de voir des dessins d'actualité dans le New York Times, dans son édition internationale précisément, l'édition américaine n'en publiait pas. La décision du journal a pris effet ce lundi dernier, trois semaines après avoir été annoncée. C'était juste après un tollé provoqué par l'un de ces dessins, une caricature de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu, caricature jugée antisémite. La fin des dessins dans le New York Times, une onde de choc mondiale. Onde de choc renforcée par d'autres affaires, des dessinateurs renvoyés pour des caricatures qui ont déplu ou qui, là encore, ont été jugés antisémites. Michael de Happer au Canada, Dieter Hanitsch en Allemagne, par exemple. Une tendance inquiétante. À une époque où le pouvoir des images n'a jamais été aussi fort, où la satire est attaquée et où la presse se trouve sous un feu nourri de critiques, parfois très violentes. D'où cette question, donc. Le dessin de presse peut-il encore être satirique ? Pour en débattre, trois invités. Patrick Chapat, bonsoir. On vous appelle souvent par votre patronyme simplement. Chapat, vous êtes dessinateur, dessinateur de presse, notamment l'un des tout meilleurs. Vous avez travaillé avec le New York Times pendant 20 ans. Vous publiez dans d'autres journaux, Le Canard Enchaîné en France, Le Temps en Suisse, Der Spiegel en Allemagne, liste non exhaustive. Vous êtes en duplex de Genève et vous intervenez quand vous voulez. À Paris, en studio, Guillaume Doisy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, vous travaillez sur les dessins de presse, les caricatures antisémites particulièrement. Vous avez coordonné avec Pascal Grimaud. Grimaldi, Dessins assassins ou la corrosion antisémite, livre publié chez Fayard. En face de vous, Denis Lacorne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, directeur de recherche au CERIG, le Centre de Recherches Internationales. Vous êtes l'auteur, entre autres, des Frontières de la Tolérance, c'est aux éditions Gallimard. Et puis, dans quelques minutes, nous appellerons Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, quotidien qui, lui aussi, a renoncé aux caricatures. C'était il y a quelques années déjà, hein, ça remonte à une douzaine d'années. Pour commencer, entrons dans le vif du sujet, parlons du dessin qui a entraîné la décision du New York Times, décision sur laquelle d'ailleurs nous allons revenir plus en détail tout à l'heure, dessin d'Antonio Moreira Antunes, un dessinateur portugais plutôt expérimenté, cela fait près de 45 ans qu'il publie dans les journaux de son pays, c'est d'ailleurs dans l'un d'entre eux, Expresso, que ce dessin a été diffusé en premier, avant de se retrouver dans le New York Times, c'était en avril. Que voit-on sur ce dessin? Je vais essayer de vous le décrire, un chien avec la tête de Benjamin Netanyahu, le cou entouré d'un collier auquel est accroché une étoile de David, et ce chien à la tête de Netanyahou est tenu en laisse par un Donald Trump aveugle qui passe sur le haut du crâne. Ce dessin a soulevé une tempête de protestations, certains l'ont jugé antisémite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis, Guillaume Doisy, est-ce que vous comprenez ces personnes qui ont trouvé ce dessin antisémite ?
Alors non, je ne les comprends pas. En fait, le contexte peut permettre de les comprendre, mais en tout cas, si on regarde stricto sensu le dessin, il ne relève pas de l'antisémitisme tel qu'on l'a connu jusque-là. Je pense qu'il faut prendre la définition du Larousse. Qu'est-ce que l'antisémitisme ? Doctrine ou attitude systématique de ceux qui sont hostiles aux Juifs et proposent contre eux des mesures discriminatoires. Le premier point, c'est le côté systématique. Vous avez rappelé que le dessinateur officiait depuis 45 ans, et c'est la première fois qu'on lui attribue un dessin antisémite. Donc déjà, ça pose un peu question, mais pourquoi pas, un dessinateur peut évoluer. Voilà, on peut se poser aussi la question pour le journal qui publie ce dessin. Est-ce que le New York Times publie régulièrement des dessins antisémites ? Non, là encore, même si...
Certains ont fait le reproche au sein même du New York Times de banaliser l'antisionisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Alors, il y a une tentative d'amalgame aujourd'hui entre antisionisme et antisémitisme, mais le chef des éditoriaux du journal est même allé beaucoup plus loin après coup, puisqu'il a dit que le dessin en question aurait pu être publié par le journal allemand Der Stürmer, à la grande époque des nazis. Donc voilà, pour lui, c'est de l'antisémitisme pur, de la caricature antisémite pure. Je voudrais quand même attirer votre attention sur un certain nombre de points sur ce dessin. Qui fait quoi ? La cible principale du dessin, c'est Trump. C'est lui dont le visage est le plus sévèrement travaillé. Il est présenté comme un aveugle. Et évidemment, Benjamin Netanyahu est présenté comme un chien, sous la forme d'un chien. Alors l'animalisation est traditionnelle dans la caricature. Le dessinateur aurait pu choisir un pitbull, par exemple, pour représenter un Netanyahou prédateur, violent, pas du tout. Et quand on regarde même les traits du visage de Netanyahou, il est tout à fait sympathique, voilà, un peu jovial, bien plus que Trump.
Pas très souriant, quand même.
Visé. Oui, très souriant.
Pas très souriant, non, pas très souriant.
En tout cas, voilà, il a un visage sympathique. L'étoile de David, elle doit pas nous choquer. Elle est présente sur le drapeau israélien, en bleu sur fond blanc.
C'est ce que dit le dessinateur.
Non, mais c'est la réalité. Le drapeau israélien, personne ne conteste que
il y a le. Je précise qu'il le dit aussi pour se justifier.
Bien sûr. Et en plus, il a repris la même couleur. Donc, voilà, Netanyahou, Premier ministre, l'étoile de David. Peut-être qu'on peut se poser la question pour la kippa. La kippa, on l'associe plutôt au domaine de la religion. Mais un non-juif qui se rend dans un lieu sacré pour les juifs, on lui propose de mettre une kippa. Il peut le refuser d'ailleurs, hein, ça arrive. En tout cas, voilà, c'est pas non plus le saint des saints. Et il faut regarder les traits des personnages. La caricature antisémite, elle s'appuie sur une stéréotypisation du juif.
Et ce n'est pas l'avancée des saints.
Ah non, absolument pas. En plus, enfin, vous avez le dessinateur Daryl Cagle, américain Daryl Cagle, qui dit que ce dessin exprime la volonté de domination des juifs sur le monde, mais non, pas du tout. Enfin, on n'est pas dans cet ordre.
Antonio Moreira Antunes, le dessinateur, dit que se justifie lui en disant que ce dessin est antisioniste, qu'il est contre la politique menée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, mais qu'il n'est absolument pas antisémite et qu'il ne regrette rien. Est-ce que vous le trouvez antisémite, ce dessin, Patrick Chapat?
Mais écoutez, les explications qu'on vient d'avoir sont intéressantes. Ce qu'elles dénotent avant tout, c'est l'importance du contexte. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a affaire encore une fois, comme ça a été le cas dans le passé avec l'affaire des caricatures de Mahomet, à un problème de transposition d'un dessin dans un contexte dans lequel il n'a pas été créé, et un contexte pour lequel il n'était pas destiné. En l'occurrence, c'est un dessin qui a été fait par Antonio pour son journal. Les lecteurs le connaissent. Le contexte
Expresso,
est extrêmement
important. Je le rappelle.
Ouais. L'Expresso au Portugal. Le contexte est extrêmement important en caricature, en humour. Vous travaillez dans un périmètre avec un lectorat et l'humour est une histoire de connivence. Antonio n'avait aucune relation de travail avec le New York Times, si ce n'est à travers une agence qui republie donc ses dessins, qui les propose, et le New York Times était abonné à cette agence. Il faut juste comprendre que pour la moitié des dessins du New York Times étaient des dessins maison, que je réalisais moi, et il y avait un dessin par semaine d'un dessinateur de Singapour sur l'Asie, et le reste c'était des dessins d'agence repris de la presse internationale.
C'est important de le préciser.
Ce jour-là, un rédacteur avait le choix entre une quarantaine de dessins, et il a choisi celui-là. Et ce dessin, sans explication, sans connaissance de son auteur, dans un contexte américain, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur les ondes de France Culture et dans un contexte européen, c'est différent aux États-Unis. Il a été mal compris, en tout cas, au minimum. Antisémite ou pas, vous me posez la question. Moi, j'ai simplement écrit que ce dessin n'aurait pas dû paraître dans le New York Times, mais ça me paraît une évidence. Vous voyez ce qui s'est passé depuis. Ça a été l'explosion. Cette explosion n'aurait jamais eu lieu si ce dessin était resté dans un contexte intelligible pour tout le monde. C'est un dessin que je n'aime pas. Je le dis avec peine, parce que vous me demandez mon avis. Je veux pas être le censeur de mes confrères. C'est un dessin que je trouve problématique pour certains détails. Monsieur Doisy, vous en avez cité quelques-uns. La kippa, je l'ai aussi mentionné. Oui, je ne comprends pas cette idée de... Est-ce que Trump est judaïsé à travers cette kippa? C'est un peu malheureux. Ça fait glisser l'interprétation. Et c'est surtout... le problème, c'est qu'il n'y a pas eu... Le débat qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, il n'a pas eu lieu. Parce que l'accusation ou l'étiquette d'antisémitisme, c'est un killer argument. Il n'y a pas de demi-antisémite. Dès le moment où vous appliquez cette étiquette infamante, il n'y a plus de débat. Et c'est ça le problème. On aurait dû avoir un débat au New York Times. Après l'apparition de ce débat, il y aurait dû avoir une explication. Qu'est-ce que le dessin de presse? Pourquoi ce dessin? Qu'est-ce qui s'est passé?
On va en parler.
J'ai essayé, moi, d'avoir cette discussion déjà avec mes supérieurs et dans le New York Times, et j'aurais aimé l'avoir aussi avec les lecteurs, mais ça n'a pas été possible.
Denis Lacorne, vous l'auriez publié, vous, ce dessin?
Oui, moi j'aurais pas eu d'hésitation. C'est pas un dessin antisémite, c'est un dessin anti-Netanyahou. C'est ça le problème, et qui voit juste. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut estimer que Trump en fait beaucoup trop pour Netanyahou, ignore totalement toute opposition un gouvernement qui n'est peut-être pas durable, qui sera peut-être remplacé par tout à fait un autre gouvernement. Donc, et c'est vrai que si on se met à la place de Netanyahou et de ses partisans, le dessin est antisémite. Mais Netanyahou a la fâcheuse habitude d'accuser tous ses adversaires d'antisémites. C'est un dessin qui heurte, qui choque, qui peut troubler, mais c'est le propre de la liberté d'expression, de pouvoir être choqué ou troublé, et représenter un homme poétique comme un chien, par exemple, c'est une vieille tradition. John Major était le caniche de George Bush, et il y avait plein de caricatures de ce type. Mm. En même temps, il y a une certaine hypocrisie au New York Times, qui est très timide, a toujours été très timide vis-à-vis de caricatures blessantes à l'égard de tel ou tel groupe ethnique, et pas seulement les Juifs.
Il faut rappeler que c'est assez récent, hein, l'apparition des caricatures politiques, oui, dans le New York Times, édition internationale,
oui,
est assez récente.
Mais, par exemple, au moment de Charlie Hebdo, après les attentats de Charlie Hebdo, beaucoup de journaux, par solidarité, ont republié les 12 dessins ou 4 dessins de Charlie Hebdo et du Gillen's Posten. Le New York Times a refusé.
Les caricatures de Marmé.
Et la motivation du New York Times était tout à fait scandaleuse. Le New York Times a dit, nous ne voulons pas heurter le sentiment de nos lecteurs qui pourraient être des musulmans. Mmh. Mais quelques mois avant, le New York Times avait publié le dessin de Peace Christ, qui est un crucifix dans un bain d'urine, qui est une œuvre d'art d'un certain Serrano, tout à fait insultante vis-à-vis, disons, des
chrétiens.
Oui, et là, il n'y a pas eu d'objection dans le New York Times. Mm. Donc, il y a un peu deux poids, deux mesures et une énorme hypocrisie, je trouve, de la part de la rédaction du New York Times.
Rapidement, Delina Korn, ça vous a étonné de voir que le New York Times, donc aux États-Unis, le pays de la liberté d'expression, puisse prendre cette décision de mettre fin à une forme d'expression, le dessin politique?
Ce sont des phénomènes d'autocensure qui dépassent de loin, malheureusement, le New York Times. Le plus grand livre américain d'une universitaire sur les caricatures qui ont choqué le monde, que j'ai ici, de Jit Clausen, publié à Yale University Press. Au moment où le livre sort, elle avait des reproductions des caricatures, y compris Gustave Doré, qui représentait Mahomet en enfer, Gustave Doré, donc ce dessinateur du 19e siècle. Eh bien, on lui a interdit de publier le livre avec des caricatures. Donc vous avez un livre entier consacré aux caricatures et il n'y en a pas une seule parce que les directeurs de Yale University Press ont eu peur pour leur survie ou pour leur organisation. Donc il y a un climat de peur qui existe quand même.
Aux États-Unis, donc. Revenons à cette décision du New York Times qui publie le dessin d'Antonio Moreira Antunes, qui s'en excuse après et qui rapidement finit par annoncer qu'il renonce donc à publier des dessins d'actualité. Décision, et vous l'avez dit, Patrick Chapat, qui vous concerne au premier plan. Cela faisait 20 ans que, si je crois bien, que vous dessiniez pour le journal. Est-ce que vous vous êtes senti trahi?
J'ai été extrêmement déçu du déroulement des événements. J'ai été stupéfié de la gestion de la crise, parce que on parle de quelque chose qui s'est passé en plusieurs temps. Dans un premier temps, il y a eu une gestion de la crise uniquement dans l'autoflagellation, hein, avec des excuses, avec une série de 5 communications en 7 jours, et qui a abouti à la décision immédiate de ne plus publier de dessins d'agence. Et c'est seulement un mois plus tard que le New York Times prend cette étape suivante, extrêmement symbolique, qui est de ne plus avoir de dessins de presse du tout. Donc en effet, le mot qu'on a lâché, c'est celui de l'autocensure. C'est nouveau, ça, c'est de l'autocensure préventive. C'est-à-dire qu'on se dit un message a mal tourné, le message visuel du dessin de presse, et pour éviter ça à l'avenir, on va supprimer tous les messagers. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous interroge, et c'est, je crois, l'objet de notre débat aujourd'hui.
Oui,
la relation du New York Times avec le dessin de presse, il faut un tout petit peu l'expliquer. Moi, je suis allé à l'âge de 26 ans, j'étais mignon, à New York, essayer de convaincre le New York Times d'avoir du dessin de presse, parce que le journal était connu comme le seul aux États-Unis à ne pas publier des dessins de presse, et ce, je crois, depuis les années 50 à peu près. Alors on m'a dit, pas question, on n'en aura jamais. Donc, Monsieur Lacorne, il faut comprendre qu'on parle de la ligne d'un journal, plus que de frilosité ou d'hypocrisie. Il y a toujours eu cette tendance, c'est un dogme qui existait chez les art directors du New York Times, et peut-être même chez l'éditeur historique à l'époque. Ensuite, ça a été pour moi un parcours assez facétieux, puisque j'ai fait de l'illustration pour eux, pas du dessin de presse, on pourra expliquer. Ensuite, je suis rentré en Europe, j'ai convaincu le International Herald Tribune d'avoir un dessinateur maison. Et puis, par une ironie de l'histoire, le New York Times a racheté le International Herald Tribune et l'a entièrement absorbé à partir de 2013. Donc, j'étais revenu par la fenêtre et j'ai en effet, en quelque sorte, ramener le dessin de presse au cœur du New York Times, puisqu'on était, à part dans l'édition print américaine, on était présent sur toutes les plateformes, donc je veux dire les dessinateurs maison, on était présent sur le web, sur les réseaux sociaux et sur toutes les éditions internationales. Mais c'est une relation compliquée qu'ils ont avec le dessin de presse, c'est une bataille, et je l'ai toujours su, c'est une bataille de 18-20 ans pour moi.
Bataille perdue par les dessinateurs et le dessin de presse. En quelque sorte, un autre grand quotidien a arrêté de publier des dessins, c'est Le Figaro en France, un journal qu'on connaît bien. Bonsoir Yves Tréhard. Vous êtes en direct avec nous par téléphone, directeur adjoint de la rédaction du quotidien. Cet arrêt des dessins de presse dans votre journal, c'était en 2006, et c'était dans des circonstances là évidemment très différentes. Dans quelles circonstances, rappelez-le-nous, Le Figaro a-t-il arrêté de publier des dessins de presse ?
Oui, écoutez, alors c'était très particulier, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de constater outre-Atlantique. Ce qui s'est passé, c'est que Le Figaro avait un dessinateur fétiche qui s'appelait Faizan. Et Faizan dessinait dans le Figaro depuis des dizaines et des dizaines d'années, et Faizan a vécu très vieux, et il nous a quittés, et c'est vrai qu'on ne l'a pas remplacé.
Pourquoi alors? Avoir renoncé au dessin de presse en ne remplaçant pas Jacques Faizan?
Je peux vous en parler parce que j'étais d'une certaine façon à bord et concerné au premier chef par cette histoire. Quand on a refait le Figaro en 2000, à l'occasion d'une de ces refontes, on s'était posé la question, puisque Faizan vieillissant, de renouveler le genre et de chercher de nouveaux dessinateurs. On n'a pas réussi à en trouver à cette époque-là, donc j'ai fait appel à des dessinateurs dont je tairai le nom parce qu'ils n'ont pas accepté de venir travailler pour nous, qui étaient connus sur la place, certains qui n'épousaient pas du tout la ligne éditoriale du journal, mais pourquoi pas, après tout c'était
plutôt de gauche,
à Paris, qu'on avait plutôt de gauche qu'on avait fait avec François-Olivier Gisbert, et ça nous plaisait assez d'être turbulent dans ce sens-là. Et puis finalement ça s'est pas fait parce que c'était compliqué, il fallait qu'on ait plusieurs dessinateurs à la fois. On a laissé tomber, on a continué avec Faizan, et puis Faizan s'est éteint à plus de 90 ans en 2006. Et il y avait comme, quelque chose qui montrait que le dessin de presse de une, qui est l'équivalent d'un éditorial, était passé de mode d'ailleurs dans la presse. Les journaux s'en passaient, le Parisien avait abandonné le dessin de presse.
En une en tout cas.
En une. Hein. Le François avait disparu avec 13. 13 a été très longtemps, moi j'étais directeur de François par le passé, et c'était 13 notre dessinateur. Et j'arrivais pas à le remplacer non plus, parce que lui aussi donnait des signes de fatigue. Et donc finalement ça s'est fait comme ça, c'est pas du tout par... crainte et en se disant bon là là on va encore s'attirer des problèmes, c'est parce que il n'y avait plus le goût, l'appétit, et puis on n'arrivait pas à trouver les talents. L'esprit du public avait aussi changé, on était plus chez les dessinateurs davantage dans l'illustration, même l'illustration signifiante, dans le dessin qui équivalait à un édito. Et je vous rappellerai quand même aussi que j'ai notre concurrent le plus coriace, qui s'appelle Le Monde, alors que Plantu faisait des beaux jours du Monde au-dessus de la pliure du journal dans les kiosques pendant très longtemps dans les années 80-90, et ben même Plantu a été relégué.
Mais il existe encore.
D'une certaine façon, il existe encore, mais il a été relégué en bas de page. Ouais. Et ça voulait dire beaucoup, et on parle beaucoup moins du dessin de Plantu aujourd'hui que jadis.
Dernière question, Yves Tréhard. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps aux États-Unis, au Canada, l'an dernier en Allemagne aussi, avec le renvoi d'un dessinateur, est-ce que tout ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez qu'une partie de la liberté d'expression, en tout cas de la liberté de caricature, de satire, est en danger?
Je dirais oui. Ça m'inquiète, et ça m'inquiète aussi de voir comment finalement on mélange un peu tout, et même dans notre pays, quand on parle de vouloir organiser un conseil de l'ordre des journalistes, quand on parle de la chasse aux fake news, ce que je comprends bien, mais quand on en donne la responsabilité de cette chasse aux moteurs de recherche et aux agrégateurs de contenu, je suis un peu inquiet. C'est pas à eux de faire ce boulot-là. Il faut être vigilant. Il faut, à mon avis, être très vigilant, parce que au nom de la liberté d'expression, que je peux comprendre et que je défendrai de bec et ongle, eh bien, on peut aller vers des dérives de censure qui peuvent être incontrôlée et incontrôlable.
Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci de ces propos, de cette analyse qui vont nourrir notre débat, notre discussion jusqu'à 19h sur France Culture. Une réaction à ce que vient de dire Yves Tréhard, Guillaume Doisy?
Oui, à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça, beaucoup disent défendre la liberté d'expression. Je pense qu'il faut rappeler que quand Charlie Hebdo était la cible des djihadistes, que Charb était menacé de mort de toutes parts, Charlie Hebdo était très très seul, que en France, seuls 3 journaux ont republié les fameuses caricatures dites de Mahomet, qui était publié par le Dylan's Posten quelques mois avant, et que Charlie Hebdo a publié, suscitant évidemment une avalanche de critiques. Donc cette solitude, finalement, elle traduit le fait que en France, que ce soit les hommes politiques ou même la presse, dans sa grande majorité, ils n'ont pas cherché à défendre cette liberté d'expression au moment même où les dessinateurs étaient les plus menacés. Alors évidemment, après l'attentat, de nouveau, on a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, beaucoup de preuves de soutien, mais finalement, on se rend compte que les journaux ne se sont pas pressés pour publier de nouveau des dessins de presse, et ni pour soutenir plus que ça, finalement, la liberté d'expression. Voilà, donc je crois qu'il faut... Voilà, la liberté d'expression, c'est pas juste une proclamation. Pour qu'elle soit réelle, il faut publier des dessins. Il faut quand même moduler la chose, c'est-à-dire que de toute façon, de quelle liberté d'expression parle-t-on? Est-ce qu'on parle de la liberté du dessinateur? Non, il n'est pas libre, le dessinateur, puisque lui, il propose...
Il y a des choix éditoriaux qui sont faits par les rédacteurs en chef, les dirigeants du journal.
Absolument. Et c'est plutôt la liberté d'expression, là, du journal qui est en cause, le choix de mettre des dessins ou de ne pas en mettre.
Denis Lacorne.
Oui, mais je crois que pour remettre ça dans le contexte, et en particulier les caricatures de Charlie Hebdo, pourquoi est-ce que Charlie Hebdo a continué à faire des caricatures blessantes, disons, à l'égard des musulmans après 2005? Eh bien, il faut jamais. Il y a deux choses. Il y a la loi sur la liberté de la presse, la loi de 1981, c'est fondamental. Bon, et c'est une loi qui interdit, par exemple, la provocation à la haine religieuse, la diffamation et l'injure envers des personnes à raison de leur appartenance religieuse. Donc il y a un cadre légal. Et puis il y a la justice, les tribunaux, qui ont un rôle fondamental. Charlie Hebdo a continué à faire des caricatures de tout le monde, à la fois de l'Église catholique, de Mahomet et d'autres, parce qu'il y a un tribunal de grande instance, celui de Paris, qui en 2007, au moment où Charlie Hebdo avait reproduit les caricatures de Mahomet et de Jyllands Posten par solidarité avec leurs confrères danois, on a le tribunal qui a estimé, c'était confirmé en appel, que, en l'occurrence, il n'y avait pas du tout d'injures ou d'insultes à l'égard de la communauté des musulmans, mais simplement moquerie de croyances et qui établit donc une énorme distinction entre, on a droit de dire pique-pente de toutes les croyances et tous les symboles religieux. Par contre, il n'est pas question d'insulter l'ensemble de la communauté des musulmans. Et si on regarde le numéro spécial de Charlie Hebdo qui avait été l'objet du litige, dans ce numéro spécial, c'était bien un numéro spécial qui était consacré aux dérives de l'islam, aux djihadistes qui utilisent la violence sous prétexte de religion, et c'est ça qui était moqué dans Charlie Hebdo. C'était pas la communauté des musulmans. Et cette distinction est difficile à comprendre, elle est propre d'ailleurs à la France, elle n'existe pas aux États-Unis. On peut dire tout ce qu'on veut, y compris les choses les plus haineuses vis-à-vis des symboles religieux, vis-à-vis pas question de montrer une détestation à l'égard de l'ensemble de la communauté des membres d'une religion particulière.
Revenons à cette décision du New York Times d'arrêter de publier des dessins d'actualité. Quelles sont les causes de cette décision, selon vous, Chapat? Est-ce que ce sont notamment, vous y faisiez référence aussi, hein, je crois, dans la tribune que vous avez publiée sur votre site internet, il y a quelques semaines maintenant, aux réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux constituent l'une des raisons de la décision du New York Times?
Mais je crois qu'il y a eu une convergence de plusieurs choses, oui. Il y a ce que j'ai décrit, en effet, ce fait de notre époque. On vit dans un monde où il y a un rapport asymétrique entre les médias sociaux et les médias traditionnels, où les seconds sont placés en position d'intimidation face aux réseaux sociaux. est en position d'être influencé par les réseaux sociaux. Lorsque des tempêtes, y a un gros mot en anglais pour appeler ça shitstorm, ça reste un gros mot en anglais, mais Madame Merkel l'a même employé, donc on l'emploie nous dans les autres langues, mais lorsque ces tempêtes ces orages grondent et s'accumulent sur les réseaux sociaux, ils s'abattent sur les rédactions et ils ont l'impression que ça vient de partout. Et ils perdent les pédales. C'est un peu ce qui est arrivé au New York Times. C'est alimenté en grande partie par les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on ne sait pas qui est qui. Il y a aussi des groupes d'intérêt politiques qui alimentent et qui soufflent sur les braises. Et donc, on a un amplificateur de colère. Hein. C'est pas le lieu du débat Twitter, c'est vraiment plutôt le lieu de la colère. Et face à ça, on a des rédactions qui sont désarmées. Le propre des journaux, des médias traditionnels, c'est d'analyser, de mettre en perspective, de donner à comprendre. Mais quand ils sont pris eux-mêmes dans les filets de telles tempêtes, ils semblent incapables de le faire. Ils sont en position un petit peu de fascination aussi, qui est un petit peu malsaine. Maintenant, dans l'histoire du New York Times, il y a eu d'autres éléments. Il y a aussi, on a dit, il s'agit aussi clairement d'éléments politiques, puisque se sont engouffrés dans la brèche tous les ennemis du New York Times, la droite...
À commencer par Donald Trump.
Bien sûr, le fils de Trump a retweeté, Mike Pence, le vice-président, s'est ému de ce dessin, le fils de Netanyahu aussi, Breitbart, Fox News, ils se sont tous jetés dans la brèche et ils ont mis du sel dans la plaie, et ils ont trouvé le talon d'Achille du New York Times, qui, pour essayer d'expliquer les choses simplement, est un grand journal libéral de la côte Est, proche des milieux juifs libéraux, donc plutôt opposés à la ligne sioniste et au gouvernement Netanyahou. Et donc les accusés d'antisémitisme, c'était les mettre en porte-à-faux absolu. Et ils se sont débattus dans ces filets, encore une fois, sans arriver. Et j'ai l'impression que leurs ennemis ont défini la conversation à travers ce dessin qui a été un symbole, qui a été un révélateur. Finalement, c'est pas tellement le dessin lui-même qui était en cause, c'est tout ce qu'il a révélé. Et ça a été une crise majeure, ça a été psychanalytique quasiment pour le journal. Et donc pris entre ces différents feux, il n'a pas su gérer cette crise, c'est comme ça que je le vois.
Contexte politique, pas de place à la discussion, au débat à cause des réseaux sociaux, de l'intimidation aussi à travers ces plateformes. Et puis Guillaume Doisy, il faut rappeler aussi le contexte historique dans lequel tout ça prend forme. On en a déjà parlé un peu avec cette affaire des caricatures de Mahomet, née au Danemark, et puis relayée ensuite en France et puis dans d'autres journaux du monde entier. Vous faites référence, vous aussi, à l'affaire des versets sataniques de Salman Rushdie. En quoi cette affaire a modifié, parce que là, on ne parle pas dessin avec Salman Rushdie, hein, c'est un texte, évidemment, mais en quoi cette affaire peut nous intéresser aujourd'hui pour mieux comprendre ce qui se passe?
En fait, l'affaire Salman Rushdie émerge à un moment où il y a la première mondialisation médiatique instantanée. Et elle n'est pas donnée par Internet, qui n'existe pas encore, mais par la télévision satellitaire. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là...
C'est en 1988, je le rappelle.
Voilà, à la fin des années 80, grâce à la télévision, une déclaration faite dans un pays est immédiatement relayée dans le reste du monde. Et évidemment, les intégristes iraniens vont utiliser cette puissance de feu pour attaquer cet écrivain anglais, et évidemment d'autres États vont se servir de cette puissance. Alors, les réseaux sociaux, ils ont démocratisé la chose, puisque à l'époque, les télévisions elles-mêmes, elles sont tenues soit par des États, soit par des grands groupes, donc ce sont eux qui gèrent la discussion. Là, comme le disait Chapat, la discussion, enfin, c'est pas une discussion, hein, c'est une furie en effet. Alors c'est une furie qui est quand même très organisée, parce que il faut quand même rappeler que la plupart des dessins publiés dans le monde quotidiennement, sur notre planète, ne suscite pas de réaction, ne suscite pas de tollé de cette manière. Il y en a, de temps en temps, en gros une dizaine par an, ou 3-4 par an, dont on parle à l'échelle internationale, mais sinon, les autres, non. Et d'ailleurs, il faut peut-être ne pas s'étonner de ces réactions en même temps, puisque c'est du dessin d'actualité qui est politique. Les fameuses agences de syndication américaines, elles proposent à leurs clients des dessins soit de sensibilité républicaine, soit de sensibilité démocrate. On est dans le politique, donc le dessin, comme les éditoriaux, sont pris dans cette espèce de bras de fer politique, et voilà, il n'est pas étonnant que certains s'en servent. En fait, depuis l'affaire des caricatures de Mahomet, on a bien vu qu'on pouvait faire une crise médiatique mondiale avec des dessins. en commentant des dessins. Ce qui explique pourquoi, régulièrement, un dessin même insignifiant de Charlie Hebdo va être commenté dans un pays parce que tel politicien ou telle sensibilité va pouvoir faire le buzz et va pouvoir se définir comme victime de ce dessin. L'affaire du dessin sur le petit Island, par exemple, mais il y en a eu d'autres, tremblement de terre en Italie. Il y a une utilisation, une instrumentalisation du commentaire sur le dessin aujourd'hui.
France Culture, du grain à moudre, Antoine Genton.
Le dessin de presse peut-il encore être satirique? C'est la question qui nous occupe ce soir dans Du grain à moudre d'été. Trois invités pour en débattre, le dessinateur Chapat en duplex de Genève, l'historien Guillaume Doisy et le politiste Denis Lacorne. Je me tourne vers vous, Denis Lacorne. Il y a un aspect aussi qu'on a pas vraiment évoqué, c'est l'aspect brut entier de l'image, du dessin. Et ça, c'est quelque chose qui entre en compte aussi dans cette polémique, parce que il n'y a pas de contexte, d'explication, forcément, en tout cas très clair. On peut facilement sortir un dessin de son contexte.
Oui, ben c'est ce que j'essaie d'expliquer dans l'affaire de Charlie Hebdo, c'est-à-dire que pour comprendre la décision de justice, qui est que le dessin, en particulier le plus blessant, disait-on, entre guillemets, le Mahomet avec une bombe mèche allumée sur son turban, là, le contexte est clé. C'est-à-dire que si ce dessin n'avait été pas pris dans un contexte très particulier de dénonciation, de dérive de l'islam, à l'époque où il y avait des poseurs de bombes et des djihadistes, si le dessin de Mahomet à la bombe avait été seul dans Charlie Hebdo, sans contexte, ou même avait été distribué comme tract, là, il est très probable, c'est l'hypothèse que fait Gwenaël Calves qui a écrit sur ce sujet, il est très probable que les tribunaux auraient décidé autrement, qu'ils auraient interdit le dessin.
Chapat, vous voulez réagir ?
Donc le contexte est clé.
Non, là, on est en train de parler des caricatures danoises.
Des caricatures danoises reprises par
Charlie Hebdo.
Charlie Hebdo,
oui.
En particulier dans
ensuite,
un numéro spécial
de
Charlie Hebdo.
Oui, ensuite, il y a eu des dessins de Charlie Hebdo qui eux-mêmes les ont amenés en justice, notamment la une de Cabu. C'est dur d'être aimé par des cons.
Mais c'est de ce numéro-là que je parle. C'est
voilà. Ça. Et la une était en question face à la justice. Et Cabu avait pris soin de, je me souviens plus le texte exact, mais d'insérer dans le dessin pour qu'on puisse pas le découper, le texte. Et il parlait bien des extrémistes. Extrémistes, oui. C'est dur d'être aimé par des cons.
Ouais. Il ajoutait, en page de garde, donc Mahomet débordé par les intégristes. Donc là, c'était très très précis.
Donc il nous précisait de qui il parle et ça n'a pas suffi. Pourtant, les gens y ont vu ce qu'ils voulaient y voir.
On l'a vu depuis le début de notre discussion, un dessin de presse, un dessin d'actualité, c'est pas forcément facile à gérer, notamment pour les dirigeants de journaux. À ce propos, Chapat, c'est quoi un dessin de presse? Est-ce que c'est forcément une caricature? Est-ce que ça peut être aussi une illustration? Yves Tréhard en faisait mention tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un dessin de presse?
Ouais, bon, on peut faire des classifications et un petit inventaire, ce serait un peu ennuyeux, mais dans ce qu'on appelle dessin de presse, à savoir les dessins qui paraissent dans la presse, et d'ailleurs on fait une équation avec caricature qui me gêne un peu moi, parce qu'il y a des sous-catégories, la caricature en est une, donc la déformation, le trait outré, il y a des petites bobines dans certains journaux comme le Wall Street Journal qui ne sont que des caricatures. Et l'aspect caricature est ce qui m'ennuie le plus dans mon métier. L'important c'est qu'on reconnaisse le personnage politique et qu'il soit intégré dans votre monde, qui soit reconnaissable. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le commentaire politique. L'illustration, qui paraît aussi dans la presse, c'est encore autre chose. C'est ce que j'ai fait pour le New York Times dans mes toutes premières années, avant de revenir avec le dessin de presse. J'ai fait de l'illustration. Et là, il s'agissait d'ornementer les textes sérieux par des jolies illustrations qui n'avaient surtout pas un commentaire personnel, ce qui était profondément ennuyeux. J'ai fait ça pendant 3 ans. Donc voilà, le dessin de presse, je crois que surtout, on a dit qu'il y avait cette notion provocatrice dans le dessin de presse. Il n'est pas par essence provocateur pour moi.
Est-ce qu'il doit être toujours drôle ?
Pour moi, son essence, sa force et son pouvoir, oui, je vais parler de pouvoir, c'est cette capacité du raccourci visuel, c'est ce court-circuit qui justement court-circuite l'esprit et que vous prenez dans la figure. En un mot, c'est son efficacité. Et ça, c'est un pouvoir, l'efficacité visuelle. Et je crois pas que qu'il y ait quelque chose de comparable à ça dans le commentaire politique. Mmh. Il n'y a rien qui rivalise avec cette capacité instantanée d'encapsuler une idée politique, un commentaire, une vision du monde qui peut être drôle, qui peut être provocatrice, qui peut être triste. Je veux dire, il y a une gamme énorme dans le dessin de presse. Ça peut être une belle image qui vous touche au cœur. Ça peut aussi vous rendre triste. Mais c'est cette capacité unique du raccourci visuel qui en fait sa force.
Denis Lacorne.
Mais vous avez raison, mais c'est vrai aussi de l'œuvre d'art. Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui satirisent les religions. Je parlais du Peace Christ de Serrano. Il y en a des tas d'autres et qui choquent parce que elles sont tellement. On peut penser à d'autres caricatures ou d'autres œuvres d'art, par exemple, de peintres américains qui piétinent le drapeau américain. Donc c'est à la fois facile et important pour beaucoup d'artistes de montrer leur révolte en utilisant la satire. Donc c'est pas le propre du dessin satirique. C'est aussi la sculpture, c'est aussi la photographie, c'est aussi le théâtre. Il y a des tas de formes différentes d'utiliser la satire. Et ce qui est en jeu, c'est vraiment la satire, beaucoup plus, je crois, que le dessin proprement dit.
Guillaume Doisy.
Oui, en fait, là, par rapport au New York Times, ce dont on parle, c'est le dessin éditorial. C'est un dessin de commentaire, en fait. On n'est pas dans ni la caricature, la déformation du visage, ni le dessin militant qu'on peut trouver, ou très radical, qu'on peut retrouver dans un journal satirique comme Charlie Hebdo.
Donc, commentaire, pas forcément opinion, c'est quoi son rôle? C'est d'exposer les thèmes d'un débat ou quand même donner un regard sur une actualité?
Oui, c'est donner un regard sur une actualité en choisissant un axe précis. Un dessinateur peut faire plusieurs dessins sur une même actualité, peut exprimer une opinion personnelle, peut aussi faire un pas de côté pour proposer au lecteur un point de vue qui n'est pas obligatoirement évident, et puis pour apporter un peu de fraîcheur. Je crois que on compare le dessin éditorial à l'éditorial écrit. Bon, l'éditorial écrit, c'est un raisonnement, c'est éventuellement une prise de position avec des arguments complexes. Le dessin éditorial ne propose pas d'arguments. Il est très simpliste d'une certaine manière, même s'il est subtil, même s'il n'est pas aussi brutal qu'un dessin de Cabu. Cabu disait un bon dessin, c'est un coup de poing dans la gueule. Bon, voilà, c'est pas obligatoirement un coup de poing dans la gueule. Un dessin éditorial, non. On va chercher justement une manière originale de présenter une situation. C'est le cas du dessin incriminé. Cette relation entre Trump et Netanyahou.
Mais que disait l'éditorial alors à ce moment-là, au moment du dessin?
Il n'illustrait pas un éditorial.
Ah, il n'illustre pas.
Non. Par contre, le New York Times écrit beaucoup sur l'actualité israélienne et les relations avec Trump. Mais en tout cas, voilà, le dessin choisi avec des raccourcis énormes, et c'est ces raccourcis qui prêtent justement à discussion. Alors là, dans ce cas, je pense que ces discussions, ces commentaires sur les réseaux sociaux sont extrêmement intéressés et extrêmement hypocrites, mais on peut comprendre néanmoins qu'en utilisant des métaphores, en utilisant l'ironie, en utilisant l'exagération, puisque le dessin éditorial quand même utilise cette grammaire-là, qu'il y ait des réactions fortes, et justement les gens mal intentionnés qui veulent faire le buzz sur ces dessins s'appuient là-dessus, et s'appuient sur le fait que de toute façon, le dessin, il va être interprété par le lecteur. Là, sur ce dessin, c'est quand même une performance, il n'y a ni titre ni légende, donc vous êtes libre quand même de votre interprétation à partir de la mise en scène et des symboles.
C'est ça qui est compliqué dans un dessin, Chapat, arriver à bien faire comprendre le message qu'on veut faire passer?
Pour moi, le plus difficile dans mon métier, c'est pas de provoquer ou de donner un coup de poing, c'est de viser juste. Et la simplicité, c'est du travail aussi. Trouver une image synthétique, parfaite entre guillemets. Enfin, pour moi, les bons dessins, c'est un équilibre assez improbable entre le message qui doit être très fort, mais sans être didactique, et puis la forme qui doit être le plus léger possible. Elle peut avoir recourir à l'humour, ou elle peut être légère dans sa simplicité, dans la beauté d'une image, dans le peu de moyens qu'on utilise. Mais d'arriver à cet équilibre là, entre la forme qu'on veut légère et le fond qu'on veut le plus dense possible. Arriver au résultat tout simple qui est de vous faire sourire, de vous faire réfléchir un tout petit peu, eh bien, c'est une prouesse qui demande beaucoup de travail. C'est quelque chose qui demande, dans mon cas, mais dans le cas de tous mes confrères, des heures de réflexion, de l'élimination. La corbeille à papier fait partie du métier. Et chercher à viser juste, c'est un travail de précision qui demande du temps. C'est un travail journalistique.
J'en parlais en introduction de cette émission. D'autres exemples de dessinateurs qui ont été... d'autres exemples qui concernent notre sujet. Là, ce sont des dessinateurs qui ont été renvoyés. Michael de Hader au Canada, viré du groupe Brunswick News il y a quelques jours pour un dessin sur Donald Trump. On voit le président américain en golfeur, club à la main, devant les cadavres d'un homme et de sa fille. L'image a fait le tour du monde, qui sont morts en tentant de traverser le Rio Bravo. Et Trump qui dit « ça vous gêne si je continue ». Son remplaçant d'ailleurs qui a été nommé, lui s'est désisté hier, preuve aussi que la satire et les dessins satiriques dans ce groupe de presse canadien posent problème. Autre exemple, Dieter Hanitsch en Allemagne, c'était l'an dernier, là c'était pour une caricature de Benjamin Netanyahou, un dessin là encore jugé antisémite. Denis Lacorne, vous le disiez tout à l'heure, vous parliez de la satire tout à l'heure, est-ce que la culture de la satire est aujourd'hui en danger dans la presse ?
Elle est en danger parce qu'il y a actuellement en France des projets de loi qui visent à affaiblir le contenu de la loi sur la liberté de la presse et qui consisterait, c'est débattu aujourd'hui, il y a eu une pétition qui a été signée récemment par Basile Ader, Richard Malka et Christophe Bigot là-dessus, qui laissent entendre que, dans le fond, il y a un risque de régression sur la liberté de la presse si on sort de cette loi qui est quand même fondamentale, la loi de 1981, tout ce 1880. Qui touche... De 1881, ouais. Tout ce qui touche insultes, diffamation et provocation à la discrimination ou à la haine. Donc la loi permet de lutter contre la haine ou contre les insultes ou contre les diffamations, mais avec une jurisprudence qui est complexe, que j'évoquais tout à l'heure. Et si on sort cette partie de la loi, si on coupe la loi en deux ou en trois, et on sort ça pour permettre des actions plus rapides et plus... pénalisante, il y a un vrai problème. Un problème de régression, peut-être, de la liberté de la presse. Et là, je serais d'accord avec le jugement qui était mis par les trois avocats en question.
Guillaume Dozy, très rapidement sur cette question.
Moi, je constate qu'il y a une évolution historique. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y avait beaucoup plus d'images satiriques, des images beaucoup plus violentes, une acceptation sociale, mais aussi une vie politique qui était dans les mots, dans le radicalisme des positions, beaucoup plus violente elle aussi, et donc voilà, ça faisait partie de cette culture. Je suis assez d'accord avec Yves Tréhard, peut-être qu'aujourd'hui, finalement, le dessin, c'est plus trop de notre époque, et justement, on est dans une époque un peu policée, et le dessin est difficile à utiliser dans ce contexte.
Il nous reste une minute, Chapat, vous parlez d'autres voies à suivre pour le dessin, pas forcément dessin dont on a parlé au cours de cette émission, dessin éditorial. Vous avez d'ailleurs réalisé, vous, des reportages en dessin, vous parlez aussi de dessin en direct. Quelles sont les pistes auxquelles vous pensez ?
Non, mais on est clairement dans le monde de l'image, dans le monde de l'immédiateté. On a l'attention d'un poisson rouge. On peut pas lire un texte plus de 30 secondes.
Très bon livre de Bruno Patino, d'ailleurs, sur le sujet.
A une adéquation extraordinaire avec notre époque. Il se partage facilement. Donc, les réseaux sociaux, on l'a dit, c'est une malédiction, mais c'est aussi une chance incroyable. Et le reportage en bande dessinée, c'est un autre registre que je pratique depuis 25 ans. Mais ça ne va pas remplacer, et je veux revenir sur ce que je viens d'entendre, ça ne va jamais remplacer cette force unique du raccourci du dessin de presse. L'humour, c'est quand même une des formes majeures de lutte contre l'oppression. Et on est en train de parler maintenant de quelque chose de nouveau, l'autocensure préventive, l'idée que si on est dans un monde où on a peur d'offenser, et si, au nom de cette peur, on renonce à cet outil qu'est le dessin éditorial, où on renonce, on veut ménager les futures offenses et dans la balance entre la liberté d'expression et les réclamations de ceux qui se sentent blessés, on penche du deuxième côté, eh bien, on va vivre dans un monde, et est-ce qu'on le souhaite, où l'humour, la satire, le dessin de presse ne seront plus possibles.
Merci à tous les trois. Patrick Chapat, on peut retrouver vos dessins sur votre site chapat.com, je le signale. Au-delà donc des journaux que j'ai cités, Le Canard Enchaîné notamment, la ligne était presque parfaite entre Genève et Paris. Un grand merci à nos amis de la RTS pour ce duplex. Guillaume de Doisy, merci, historien de la caricature. Et Denis Lacorne, merci à vous également, directeur de recherche aux séries. Merci aussi à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Elodie Piel, Margot Leridon, Roxane Poulain, Valentin Berg. Réalisation ce soir, Thomas Jost, mise en onde, Laurie Vachon. Pour réécouter cette émission, deux possibilités, le site France culture.fr, l'application Radio France. Demain, nous parlerons du bruit. Sommes-nous devenus allergiques au bruit ?